français.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus, la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
RMC, Football Show.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'after, c'est parti pour deux heures de bonheur, il y a deux heures d'after. Avec nous ce soir, il est frais comme un gardon, il revient. Il a toujours été là d'ailleurs, il n'est jamais parti. Lui. Ali Benarbia, bonsoir Ali.
Salut Nicolas.
Ça va Ali?
Très bien et toi?
Ouais, écoute, ça va. Tranquille.
Ça va, pas trop fatigué cette semaine?
Si, le pire c'est que si.
Je sens. Hein.
Ouais,
hein?
Tu sais.
Mais.
Tu sais le.
Ouais, non, t'as les yeux qui brillent.
Ah bon?
Ouais.
Mais ça c'est au revoir Ali.
Ah,
ah oui.
Ça me fait plaisir. C'est ça de prendre trop de vacances.
Ah oui.
Ludo Bragnac, chemise de bûcheron, bien entendu.
Eh ben attends.
Car il est bûcheron, là.
On sent les gars de la montagne.
Ben, on en revient. On représente.
Les gars, on va rappeler les résultats, notamment de cette 21e journée de Ligue 1. Le carton du PSG 9-0 face à Guingamp. La victoire de Toulouse 1-0 à Nîmes. Le carton aussi de Strasbourg 5-1. C'était à Monaco. On va y revenir dans quelques instants. Un partout entre Reims et Nice. Supporters de toutes ces équipes, on vous attend au 32-16. On va vous donner d'autres résultats à l'étranger. Mais avant, petit détour par le Havre, par le Stade Océan, où Anthony Reich avec Laure Lefailleur. Car ce soir, il y a un match de gala, un match amical, match de football féminin entre la France et les États-Unis. On est à quelques mois du début. Pour la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde qui se déroulera en France d'ailleurs. Anthony, Laure, bonsoir. 2-0 pour les Françaises face aux Américaines, dis donc.
Ouais, salut Nico, salut messieurs. Effectivement, vous arrivez au bon moment parce qu'il y a tout juste deux minutes, les Bleus ont doublé la mise grâce à l'impeccable Kadia Toudiani qui s'est retrouvée sur le côté droit à l'angle de la surface de réparation. Bon, elle voulait peut-être centrer. Ça s'est fini en un lob délicieux qui a parfaitement trompé la gardienne américaine et donc qui a permis aux Bleus de doubler la mise 2-0 après presque une heure de jeu, Laure.
Oui, et puis ça concrétise en fait un super travail de Kadidia Toutani qui est bien dans sa rencontre. Elle n'a pas souvent été titularisée en pointe de cette attaque et c'est elle qui s'est procuré les meilleures occasions et elle a marqué deux buts. Donc c'est ce qu'on demande à une attaquante, c'est une belle prestation ce soir.
59 minutes de jeu ici au Stade Océan et un stade qui se réveille du coup après ce deuxième but tricolore et donc toujours 2-0 pour l'équipe de France face aux championnes du monde en titre.
Merci beaucoup, vous n'hésitez pas à intervenir s'il se passe quelque chose du côté du Stade Océan. Je vous donne quelques résultats également en Ligue 2. Sachez que Lens a battu Nancy cet après-midi de 2-1. Lens qui est troisième du coup avec ce résultat. Un partout entre Niort et Grenoble. À l'étranger, Liverpool a battu Palace 4-3. Victoire 2-1 de Manchester United face à Brighton. Arsenal a remporté le derby face à Chelsea. Victoire 2-0. En Espagne, le Real Madrid a battu Séville 2-0. L'Atlético a battu Huesca 3-0. Et en ce moment, ça joue entre le Celta et Valence. Le Celta mène 1-0. On sera avec Fred Hermel tout à l'heure pour revenir sur ces affiches de la 20e journée de Liga espagnole. En Allemagne, Gladbach a battu Leverkusen 1-0. Victoire de Dortmund 1-0 à Leipzig. Match très important. Ils reprennent 6 points d'avance du coup les hommes de Favre avec Dortmund. Et puis la Roma a battu le Torino 3-2 également. On vous rappelle aussi que l'After a lancé le 7 janvier son After Academy et vous offre la chance de vous mesurer et débattre aux côtés de Daniel Riolo, Jérôme Rotel et toute la bande de l'After. Pour vous inscrire, vous allez sur rmc.fr, vous postez votre vidéo, vous avez jusqu'à demain soir, maniez-vous, pour pouvoir jouer. La révélation du nouvel Afterien se fera le 4 février. Voilà.
Mais on a vu la vidéo que d'un seul.
Ah non, il y en a eu plusieurs. Non, c'est un
plusieurs. Mais c'est pas fair play.
Alors, Jérôme Thomas est en train de me le préciser, on en a reçu déjà 800, sachez-le. Voilà, 800 prétendants à l'After, peut-être futur Afterien.
Afterien.
Ils seront peut-être là avec vous, les mecs. Il y en a un qui sera avec vous. Et d'ailleurs, voilà, il est en train de me dire que c'est Ludo Aurélien qui va devoir se taper tout le visionnage. Hein. T'es pour ou contre la vidéo?
Oui, pourquoi pas.
Là, tu vas être pour, je te le dis.
Ah, là, je suis pour, ouais. On va rigoler.
Les gars, on va commencer cet after par le plus important, bien sûr, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Ali, tiens, on va commencer par toi, bon Ali.
Premier point. Alors, est-ce qu'on va avoir cette journée, la journée la plus prolifique en but? Parce qu'en deux matchs, ça fait 16 buts, si je me trompe pas. PSG et Monaco-Strasbourg. Est-ce qu'on pourrait avoir la journée la plus prolifique? Ça serait une bonne chose. Je sais pas si c'est bien, mais moi j'aime bien voir beaucoup de buts. Spectateur aussi. Deuxième chose, je vais pas parler de Monaco, mais je vais parler de Strasbourg. Parce qu'on oublie un petit peu cette équipe, ce club, ces joueurs. Parce que là, ils ont pratiquement battu les plus gros chez eux et non pas à Strasbourg. en plus en jouant bien, en étant bien costaud et en marquant des buts et en tournant son équipe. Donc bravo Strasbourg. Voilà mes deux points.
Ouais, parce que le troisième, tu n'auras plus le temps.
Exactement.
Cordelet, tu l'as compris, tu es un gros match. Voilà. Tu n'avais pas tes trois points.
Parfait.
Ludo, tes trois points ce soir.
Forcément, on va parler du Paris Saint-Germain et de l'influence de Thomas Tuchel sur ce renouveau qu'on sent du côté du Paris Saint-Germain, où justement le PSG a mangé littéralement cette équipe de Guingamp et l'a surtout respecté, parce que quand on est au-dessus, le mieux c'est de respecter l'adversaire et de jouer 90 minutes, ce que le PSG ne faisait pas forcément avant, où après 2-3-0 il pouvait dérouler. On sent un vrai changement de mentalité et ça c'est plutôt encourageant pour la suite des événements. Monaco, ça devient gênant. On pensait que les recrues pouvaient faire la différence. Au final, c'est elle qui plombe le match ce soir. Et Strasbourg, un club exemplaire, un exemple à suivre sur le plan économique, sportif, humain. Bravo à eux et une cinquième place qui est totalement méritée.
Je donne mes trois points également, je vais pas être très original non plus, mais forcément Monaco là qui sombre. Alors c'est vrai que cette défaite 5-1 quand même à domicile épique. Juste je regardais en championnat, Monaco n'avait plus perdu à domicile face à Strasbourg depuis 78. Hein. Et là c'est vrai que 5-1, et tu le disais, entre les recrues qui apportent pas ce qu'on attendait et tout le reste. Le PSG, alors il y a ce 9-0 qui est un résultat quand même exceptionnel, historique pour le PSG à domicile, toutes compètes confondues, ils avaient jamais gagné 9-0, mais c'est surtout la blessure de Verratti et ce fameux dossier du milieu de terrain avec le 8e de finale de Ligue des Champions qui arrive, il est plus que jamais d'actualité. Et petite parenthèse également, sur la victoire d'Arsenal 2-0 face à Chelsea. Il y a eu une très très belle journée en Angleterre cet après-midi aussi, hein, qui avait débuté avec un Wolverhampton-Leicester complètement taré ce match. Vraiment, Puel qui a perdu 4-3 face à Wolverhampton. Mais ce Arsenal-Chelsea était pas mal aussi. Sachez qu'on va faire une grosse page Monaco.
Il y a eu trois coups de sifflet là,
Oui, mais c'est normal, c'est la fin. On va faire une grosse page Monaco dans quelques instants également. On vous attend, supporters de l'ASM, supporters du Racing également au 32-16. Yann Pécheral sera avec nous. Il aura assisté aux conférences de presse, notamment à celle de Thierry Henry, mais aussi de Thierry Loret, et on reviendra bien entendu sur cette défaite de Monaco ce soir, 5-1 face à Strasbourg. Monaco qui reste avant-dernier de Ligue 1 à l'issue de cette journée. On va débuter par le carton de cette journée, résultat historique, on vient de le dire, victoire 9-0 du PSG face à Guingamp, doublé de Neymar, triplé de Verratti, triplé de Cavani, Meunier qui a marqué lui aussi.
Triplé de Cavani.
Oui, triplé de Cavani. Ouais.
Et de Mbappé, pas Verratti. Verratti.
Non, c'est Cavani, ouais.
Blessure de Verratti.
Ouais, c'est Cavani. Plus large victoire de l'histoire du PSG à domicile, toute compète confondue. Thomas Tuchel qui a aimé. Alors, même s'il estime, vous allez l'écouter, que ce match n'était pas parfait de la part des Parisiens.
C'est bien de commencer comme ça parce qu'on a joué très très fluide et on a créé beaucoup de possibilités. On a contrôlé, à la même temps, on a contrôlé le contre-attaque totalement. Et on a contrôlé le match dans les camps adverses et on a fait une performance très complète, pas parfait mais très complète.
Voilà, c'est pas parfait, hein, dit Marco Verratti. Alors,
c'était pas dit Marco Verratti.
Tuchel, allez, on va rester sur Verratti. Nico, comme ça, on s'en débarrasse. Mais dis-moi.
Non, on peut
la blessure.
Ouais, en fait, voilà, je me dis, ça la fout mal. On va évoquer le dossier du milieu de terrain. Ouais, on va prendre.
Non, pas du milieu de terrain, de Verratti.
De Verratti. Au milieu de terrain. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai fait une fixation.
T'as une idée derrière la tête?
Ouais, franchement, j'ai pas envie d'en parler.
Il se repose pas assez. Tu le sais, allez, dis-le.
Non, moi, je sais rien du tout.
Allez, envoie,
Non, moi, j'en sais rien du tout. Mais. Comment on peut analyser ce match, franchement? Qu'est-ce qu'on peut penser après ce 9-0 du PSG face à Guingamp, sachant que Guingamp est dernier, que le PSG est leader? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce match-là? La blessure de Verratti, justement.
Non, on dit souvent que le PSG ne respecte pas les équipes quand ils viennent jouer au Parc. Ben là, je crois que d'une, Gourvenec et son équipe n'ont pas du tout respecté le Paris Saint-Germain, dans le sens où ils n'ont pas joué du tout. Ils ont passé leur temps à attendre et à faire des passes en retrait. Et alors j'étais étonné parce que j'étais là, je regardais le match, je voyais le papa Thuram qui était à côté, et je voyais Jousselin Gourvenec qui passait son temps à dire à son seul meilleur joueur, tu restes le long de la ligne et tu ne bouges pas.
Son seul meilleur joueur qui est le fils de Lilian, Thuram.
Exactement, Marcus. Le seul qui peut aider en général Guingamp cette saison. Eh ben du coup, il a essayé de rentrer une fois, deux fois, après, le jeune n'a plus joué.
Il a attiré par la ligne, qu'à un moment donné, il y avait des contre-attaques à partant plein champ à aller provoquer. Et tu sais pas pourquoi, appel de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui laisser le temps aux défenseurs parisiens de venir annihiler les contre-attaques au lieu de partir plein fer, aller fixer, aller essayer de jouer un 2 contre 1 ou un 2 contre 2.
Mais bien sûr.
Attends, il réagissait comment le Perturam en voyant
complètement déjoué.
Il connaît Guenga, il connaît son fils qui l'apporte énormément. Et ce qui s'est passé, ben il était content le PSG, c'était content. Ils n'avaient pas peur non plus de Marcus Thuram, mais il leur a fait tellement mal ces derniers temps qu'après, le petit Thuram n'a plus joué. Et alors là, Guingamp perdait le minimum de ballons qu'ils avaient et Paris Saint-Germain s'est régalé.
Puis ça
ils ont,
ça
ils sont vraiment régalés. C'était même pas une attaque défense.
Quel est l'intérêt de mettre le bus devant le but pour en prendre
mais, Ludo, ils n'ont pas mis le bus. Tu sais pourquoi? Parce que attendre, c'est pas mettre le bus. C'est sortir en avançant pour défendre. Ils faisaient même pas ça.
Attentiste.
Ils attendaient. Et encore, parfois, ils ont été un petit peu maladroits parce qu'il y avait beaucoup de jambes. Donc, il y a Mbappé qui avait pas beaucoup touché le ballon en première mi-temps. Mais 9-0, c'est gentil. Ils auraient pu en mettre 10, 11, 12. Donc là, c'est Guingamp qui a pas du tout respecté le Paris Saint-Germain.
Bah tiens, justement, on va écouter Jocelyn Gourvennec à l'issue de ce match. Alors forcément, lui, il était dépité après ce 9-0 encaissé au Parc des Princes ce soir.
On a simplement existé, fait illusion dans toute l'entame de match jusqu'à l'ouverture du score. On était plutôt bien. Et puis après, ça a été difficile. On a été noyé ensuite. On a fait des erreurs de débutants. J'ai eu le sentiment de voir une équipe de Gambart contre une équipe de Ligue 1. Parce que ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Et puis après, on a plus du tout été dans le tempo. On a été dépassé, totalement dépassé tout le temps dès qu'ils accéléraient. Voilà. Il y a 10 jours, on gagnait ici. Et je pense que c'était pas volé sur ce qu'on a réussi à faire, notamment dans l'utilisation du ballon. Et 10 jours après, on revient à la réalité d'un match au Parc, c'est-à-dire qu'on peut être sanctionné et sanctionné lourdement.
Bah, c'est vrai, Gourvennec le rappelle, rappelons quand même que cette équipe, c'est celle qui, il y a quelques jours, a éliminé le PSG en Coupe de la Ligue.
Qui joue au ballon et le fait d'avoir un pénalty aide une équipe qui n'est pas bien. Mais 3 pénaltys, c'est pas tout le temps que tu auras 3 pénaltys. Mais ça n'empêche pas que tu peux jouer au football. Tu peux perdre, mais tu peux jouer au football et montrer que tu as fait un travail et que ton équipe est capable de jouer au football. Et ce qui est assez bizarre, c'est que je regardais cette équipe de Guingamp, je me disais, il y a 2 joueurs qui peuvent apporter offensivement quand ça allait pas. C'était Marcus Thuram et c'était celui qui l'a écarté là.
Benézé.
Ce qui est bizarre, Benézé a disparu et Marcus Thuram, j'ai pas su son tas à le voir tête baissée, à perdre son football. Alors arrive un moment, je ne comprends pas du tout ce que peut faire ou ne pas faire un coach en sachant que ton équipe ne va vraiment pas bien et le peu de joueurs qui sont en pleine forme, tu te débrouilles pour les écarter. Mais en général, c'est souvent des joueurs à vocation offensive. Et les équipes qui veulent se battre pour le maintien veulent que des mecs costauds défensivement et comptent sur eux pour s'en sortir. Je suis désolé, tu peux aussi bien t'en sortir par le jeu et avec des joueurs qui ont la capacité à se retourner, à poser le jeu, à créer des occasions et marquer des buts. C'est pas en ayant toujours des Robocop que tu vas te sauver.
Ce qui est assez frustrant aussi, c'est de voir le niveau qu'il peut y avoir entre notre meilleure équipe de championnat et une des équipes et notre dernier. C'est Guingamp. C'est la différence quand Paris décide de jouer correctement et d'imposer son pressing, de vouloir continuer à jouer, de jouer en une touche de balle, d'avoir de la fluidité, de passer sur les côtés pour contourner une défense regroupée. Tu vois que le niveau il est abyssal. C'est plutôt inquiétant. On en parlait depuis plusieurs temps, depuis un moment dans l'after ou sur le niveau de notre championnat.
On continue en disant que les fameux deuxièmes Lyon, Marseille et Monaco, quand on voit le niveau où ils sont, Ludo, c'est plus que pesant et agaçant.
Non, mais c'est pas une belle soirée autant ça peut l'être pour justement des clubs comme Strasbourg, mais franchement, quand on voit nos deux relégables, à Monaco et Guingamp, honnêtement, on peut être très 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 inquiet parce que l'impact d'une telle défaite sur l'aspect psychologique, et ça peut être terrible.
Mais pourquoi toi t'es inquiet quand tu vois par rapport à ça? Mais c'est pas plutôt, enfin, t'es pas plutôt inquiet en voyant le haut du tableau justement, comme dit Ali, finalement de te dire que quand tu vois ce que font les Lyons, les Marseille qui devraient être des locomotives finalement.
Mais les deux, mon capitaine.
Ouais.
Les deux. Hein.
Ouais, mais des équipes qui sont censées se maintenir, je suis désolé, tu dois les battre par un but d'écart, parce que elles se battent, elles sont agacées, elles sont énervées. Une prend 5-1 à domicile, l'autre elle en prend 9 et elle aurait pu en prendre 15 si j'étais au parc. Donc arrive un moment, c'est quoi? C'est dire, on est fragile, on est faible, et en même temps, ben, on va pas donner plus. Mais il y a l'amour propre. Arrive un certain temps, quand t'es joueur, il n'y a pas que les qualités physiques, techniques ou morales. C'est l'amour propre après qui prend le dessus. Maintenant que les supporters ne soient pas contents d'arriver un certain temps, là oui, parce que c'est vraiment de l'amour propre.
Et puis un match qui a été marqué quand même. Alors c'est vrai que tout n'a pas été parfait, a dit Thomas Tuchel dans cette victoire 9-0 du PSG face à Guingamp. Très très vite dans ce match, il y a une blessure, celle de Marco Verratti qui est sorti, touché à la cheville. Il a donné des nouvelles de son milieu de terrain italien Thomas Tuchel à l'issue du match.
Une blessure de Marco change tout. Parce que jouer avec Marco, avec son qualité, c'est pas possible. C'est avec Marco, sans Marco, c'est une chose complètement différente. Et pour ça, nous sommes très tristes parce que je pense que c'est sérieux et il était, qu'il est blessé sérieusement. Et oui, c'est dur et grave pour nous.
Voilà, il est parti à l'hôpital, hein, Marco Verratti, va passer des examens. On vous tiendra au courant, bien sûr, sur RMC Sport, rmcsport.fr, de l'état de forme de Marco Verratti. La blessure est sérieuse, visiblement. Il est touché à la cheville, Marco Verratti. Il y a 8e de finale de Ligue des Champions qui arrive face à Manchester United. Et il y a surtout toujours ce dossier du milieu de terrain du côté du PSG. Hier, on vous le disait, il y a Paredes, il y a Weigl, on en parle beaucoup, comme des potentiels recrues. Paredes est même très chaud avec le Paris Saint-Germain. Ça négocie avec le Zénith actuellement avec ce milieu de terrain argentin. Il y a même un accord, d'ailleurs, entre le joueur et le club. Voilà, c'est pas bon. C'est vraiment la pire des nouvelles pour le PSG. Rabiot qui est en réserve maintenant.
C'est dingue, c'est l'impression d'avoir. Tu sais, quand tu jouais, tu prenais un coup sur le pied, t'avais un hématome sur le pied. Et le premier contact, le mec, il venait, il te marchait dessus.
Là où il fallait.
Bah, là, c'est un peu la même situation pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tu as. Il y a un secteur où c'est douloureux, c'est au milieu de terrain. T'es en recherche et t'es en incapacité de pouvoir régler le problème Rabiot. Et manque de peau, le seul numéro 6 valide qui te reste, il est possible qu'il soit out pour ton 8e de finale. Donc ça devient un sujet qui était important, ça devient un sujet qui devient capital.
Est-ce que c'est pas une bonne chose pour Tuchel qui poussait pour avoir ce fameux milieu terrain?
Parce que là, ça bosse dessus déjà.
Mais il t'en faut deux maintenant.
Non, il bossait. Mais
ils en veulent deux.
Déjà, pour en avoir un, Ludo, le fait que là, Verratti, il a une bonne blessure, là, ils vont accélérer. Antonio Henrique et les dirigeants du Paris Saint-Germain, pour de suite déjà prendre un joueur, parce que même si tu prends un Paredes ou un Weigl, le temps qu'il s'habitue au club, le temps qu'il s'habitue à ses joueurs et tout, il faudra un certain temps. Donc, parler de Manchester United, c'est pas ça. Hein. C'est surtout que d'avoir un joueur de suite qui rentre un petit peu dans la façon de jouer du Paris Saint-Germain et qui s'adapte à ce système, à ce poste-là, qui pour moi est le poste un petit peu clé du Paris Saint-Germain, parce que tout passe pratiquement par cette position au Paris Saint-Germain ces dernières années.
Les gars, juste avant d'accueillir Tariq et Julien qui nous a appelé au 32-16 supporters du PSG, et avant de revenir, de continuer d'analyser cette victoire 9-0 du PSG face à Guingamp et cette blessure de Marco Verratti qui est touché à la cheville, petit détour par le stade Océane, match amical, les féminines, les françaises jouent face aux états-uniennes, Anthony Reich.
Oui, le troisième but refusé pour l'équipe de France pour un jeu logique suite à un corner bien frappé des Bleus. Il y avait d'abord une première frappe au niveau des 20 mètres d'Elise Bussaglia, bien repoussée par la gardienne américaine, et derrière le but, mais évidemment hors jeu pour l'équipe de France, les Bleus qui maîtrisent leur sujet lors dans cette deuxième période. Vraiment une bonne construction, un bloc équipe très intelligent ce soir construit par Corinne Diacre.
Oui, et puis surtout en cette deuxième période, après le deuxième but, on sent que les Françaises sont dans de la gestion. Elles posent énormément de problèmes à cette équipe américaine qui d'ailleurs a changé de système de jeu, se retrouvant en difficulté. On a vu aussi l'entrée en jeu de Katoto qui aussi a beaucoup approuvé ce soir pour gagner une place dans ce groupe pour la Coupe du Monde. Voilà.
Donc, après, un petit quart d'heure de jeu, toujours donc 2-0 pour l'équipe de France face aux championnes du monde en titre ici au Havre.
Laure.
Oui.
Pour nous là, la Coupe du Monde là, à partir du mois de juin.
Bah, j'espère qu'on a la coupe à la maison.
Voilà, c'est bien parti là, non?
Bah, en tout cas, si on est dans cette lignée, oui, effectivement, maintenant on n'est qu'au mois de janvier. La compétition, c'est au mois de juin.
Ouais, puis là, c'est un match amical, c'est ça que tu vas me dire.
Exactement, et que les Américaines vont rentrer dans un camp d'entraînement, vont avoir plusieurs mois de préparation, alors que les Françaises jouent en club. C'est un petit peu différent dans les préparations, donc il faut se méfier. En janvier, ce résultat n'est pas très significatif, même si pour la confiance, c'est plutôt bon.
Moi, je pense si on changeait, qu'on soit positif, il est significatif, parce que là, si on perdrait contre les Américaines, on dirait, ben, c'est normal. Là, on les bat 2-0 ou 1-0.
Bah, on rappelle que les États-Unis, c'est vraiment une grosse nation du football.
Exactement.
Féminin.
Donc, on les bat 2-0. Donc, on est content. On va positiver. Corinne Diacre fait un super boulot. Et j'espère que ça va continuer pour la Coupe du Monde.
Ali, elle va pas s'enflammer, alors. Attends.
Allez, il faut s'enflammer un petit peu.
Ben, non, c'est parce que j'ai quand même été joueuse et on était souvent championne du monde des matchs amicaux.
Attention à cette percée de Marie-Antoinette Catoto qui dribble la gardienne. Et le troisième
but. Ben voilà, j'avais raison.
Ali l'avait annoncé.
De la jeune attaquante du Paris Saint-Germain qui a pris la profondeur dans le dos de la défense américaine et qui dribble parfaitement la gardienne américaine pour inscrire son tout premier but en équipe de France. Elle qui avait été dézinguée littéralement cette semaine en conférence de presse par Corinne Diacre qui disait qu'elle n'aurait pas sa place dans ce groupe, qu'elle avait un comportement limite au niveau de l'entraînement, au niveau sportif. Et ce soir, elle donne sa réponse sur le terrain. Alors,
je pense que c'est une bonne réaction. Corinne Diacre l'avait un peu piqué au vif. On sait qu'à la Coupe du Monde du 20, elle avait été mise sous un piédestal et elle avait manqué sa compétition. Aujourd'hui, on l'attendait et là, elle répond présente dès son entrée en jeu.
3-0 donc, après encore les 13 minutes de jeu dans cette deuxième période. Tout roule pour l'équipe de France en ce début d'année 2019.
Merci beaucoup Anthony et Laurent.
Ah une nouvelle année 2019, Coupe du Monde 2019, la France va la gagner.
Le 7 juillet prochain, la Coupe du Monde féminine, ce sera bien entendu sur RMC notamment. On en était donc à la victoire du PSG ce soir, cet après-midi d'ailleurs 9-0 face à Guingamp. Cette blessure de Verratti donc qui est touché à la cheville. On vous tiendra au courant bien sûr de l'état de forme, d'état physique de Marco Verratti.
Et on voulait 3 triplés, on était pas loin.
Oui, effectivement. On va accueillir Julien, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Julien.
Salut Nico.
Salut Julien. Salut Julien.
Comment va Julien?
Salut Ali, salut Ludo. Ah Ludo, je t'aime beaucoup, je voulais te dire très bonne recrue pour RMC.
C'est gentil, merci.
Très 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 fin dans l'analyse des matchs.
C'est sympa.
Mais il a une chemise, c'est pour ça. C'est parce qu'il a des belles chemises que tu dis ça.
Non, je le trouve très fort dans l'analyse des matchs.
Merci de nous avoir appelé, Julien. Bonne soirée.
Allez, ciao. Voilà.
Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du match, toi? Qu'est-ce que t'en retiens, d'ailleurs? Est-ce que tu retiens le 9-0 ou la blessure?
Moi, je me suis régalé. La blessure, moi, ça m'inquiète pas trop. Faut voir quand est-ce qu'il sera de retour. Ouais. Contre United, je suis pas inquiet. Je pense que Paris peut rouler sa race sans lui. Mais pour revenir sur le match de Guingamp, franchement, je me suis régalé. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière minute. Ils ont pressé. Et j'ai une image incroyable à la fin du match, j'ai jamais vu ça. À 9-0, Kylian Mbappé va faire le pressing sur le gardien Guingampais qui en fait veut pas récupérer la balle tout de suite à la main pour gagner du temps. Et je veux dire, c'était incroyable, ils l'ont vraiment roulé dessus, ils ont tout donné du début à la fin. Voilà, j'ai passé une super après-midi, franchement. voilà.
Mais toi tu dis de toute façon, quoi qu'il arrive, le PSG va rouler sur United, c'est ça?
Ah, j'ai dit ça au standardiste.
Mais Max t'a balancé, mon pote. Hein. Tu sais, Max balance tout.
Il a raison. Non, je pense que même sans Verratti, on va se débrouiller sans lui. Contre United, en tout cas, il y a trop de talent dans cette équipe pour
après, United, c'est bien, là. Hein. Ils sont sur une dynamique de dingue, depuis que Solskjaer a pris l'équipe.
Non, moi, ce que j'aimerais, que le Paris Saint-Germain joue ses matchs jusqu'à la 92e, 93e, qui joue contre les 20e ou qui joue contre Lyon ou qui joue contre l'Olympique de Marseille, c'est ce qui permettra d'être prêt si tu as des échéances. Mais quand tu commences à gagner 2-0 et être dans la gestion, automatiquement, tu contre-joues ou tu déjoues. Et là, le Paris Saint-Germain m'a fait plaisir dans le sens où ils ont tout le temps continué à jouer leur jeu, à récupérer le ballon haut et à continuer à attaquer. C'est ce qui va te permettre d'avoir, de jouer un bon rythme, même si tu joues pas contre une super équipe.
Au-delà de ça, au-delà de la qualité dont on parle et de la capacité à justement renouveler les efforts continuellement, il y a aussi la fluidité dans le jeu qui est aussi, c'est un nouvel élément, puisque Neymar a toujours tendance, Mbappé pareil, à tripoter un peu, à en faire un peu trop. Là, sur le match d'aujourd'hui, une touche, deux touches. Je prends, je décale, je serre le copain, je décale, Bernat, bim, bam, hop, avec Cavani, compagnie. Enfin, tu as raison, cet après-midi, on s'est vraiment régalé, parce qu'on a vu une équipe
qui continue à jouer,
qui a trouvé de la fluidité. Je pense que ce stage, justement, qu'on a plus ou moins décrié au Qatar, je pense que des fois, sur ce type de joueur, il y a des préparations physiques qui sont importantes. Je pense qu'avec ce type d'entraîneur-là, ils ont quand même bossé. Ils se sont amusés en même temps. Et dans ces moments-là, c'est hyper important pour la formation d'un groupe.
Merci Julien de nous avoir appelés.
Merci Julien.
Merci Nico, je voulais juste faire une dédicace à mon pote Jérémy. Je te vois, James. Merci les gars.
Ok, bah c'est dit. Salut, salut Julien, bonne soirée. On sera avec Tariq également dans quelques instants, supporter, autre supporter du PSG qui nous a appelé au 32-16. On rappelle, carton, plus que carton, résultat historique pour le PSG face à Guingamp cet après-midi, victoire 9-0. Verratti est sorti sur blessure, touché à la cheville. C'est très sérieux, a déclaré Thomas Tuchel. On revient, on analyse cette blessure dans quelques instants et cette absence à venir de Marco Verratti avec Ludo Bragna, Cali Benarbia et Tariq qui nous a appelé au 32-16.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné d'Ali Benarbia et de Ludovic Obraga. Qu'on vous rappelle les résultats de ce samedi, résultats de la 21e journée de Ligue 1. Sachez que cet après-midi, le PSG a battu Guingamp 9-0. Victoire de Toulouse 1-0 à Nîmes tout à l'heure. Strasbourg qui a cartonné 5-1 à Monaco. On sera avec Yann Pécheral dans quelques instants qui a assisté à la conf de presse de Thierry Henry. Henri en mode vénère, en conf de presse, il y a quelques instants. Et puis un partout entre Reims et Nice. On rappelle que du côté du Paris Saint-Germain, malgré cette victoire 9-0, une sale nouvelle quand même pour les Parisiens. Marco Verratti, en tout début de match, qui est sorti sur blessure, touché à la cheville. Blessure sérieuse, a expliqué, a révélé Thomas Tuchel à la fin du match. On accueille Tariq, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait revenir justement sur cette blessure de Verratti. Salut Tariq.
Salut, salut l'équipe.
Salut, salut Tariq.
Ouais, moi je voulais revenir sur sur le match en fait pour dire que le seul truc à retenir, je pense, ouais, c'est la blessure de Verratti. Moi je pense que maintenant on va être limite obligé de recruter deux joueurs. Je rejoins Ali et Ludo par rapport à ça parce que contre Manchester, contrairement à l'auditeur d'avant, surtout dans la dynamique dans laquelle ils sont, ça va être tendu. Sans un milieu de terrain, un numéro 6 de métier comme Verratti, ça va être chaud. Ça va être chaud.
Donc toi, tu retiens vraiment que ça. Ce que disait Ludo et Ali aussi il y a quelques instants, le fait que finalement cette équipe parisienne, elle est tout donnée face à Guingamp, voilà, qu'elle ait respecté son adversaire, comme on dit entre guillemets.
Après, il y a les deux anciens professionnels qui sont là sur le plateau. Et franchement, Guingamp, je les ai trouvés mais ultra faibles. Ça m'a limite un petit peu choqué parce que ils ont vraiment rien fait du tout pendant le match. Ils sont d'un niveau affligeant les Guingampais. Ils ont été sérieux pendant tout le match, les Parisiens, mais Guingamp, ils ont vraiment rien proposé du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était chaud.
Est-ce que, comme on le disait avec Ali, est-ce qu'ils ont rien proposé ou est-ce qu'ils n'ont pas pu proposer quelque chose? Je pense pas que c'est une question. Je pense pas que c'est une question de volonté. Je pense pas que tu souhaites te faire humilier comme ça quand t'es joueur professionnel. Quand t'en prends 9. Je peux te jurer que tu baisses la tête pendant un moment. Hein. Cette défaite va rester dans les têtes pendant une grande partie de la saison. Donc, mais je crois que tout simplement la pression de la position et puis la différence de niveau, tout simplement. Quand Paris a mis un pressing en place, regarde le but que met Mbappé. Je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième. Mmh. Regarde, ne serait-ce qu'un sur un petit pressing, c'est Bois qui fait une relance pied gauche catastrophique, qui touche le tibia de Cavani, qui revient dans les pieds d'Mbappé. Quand t'es dernier, t'as pas le droit de faire ça. Mmh. À la limite, balance en touche ou je sais pas, mais tu sens. Forcément, c'est limité techniquement. Ça a été trop fort en face. Et puis, quand t'es dernier, il y a forcément, t'es pas bien, quoi. Hein. Tu joues pas en confiance, t'es pas serein. Et là, quand t'es face à une équipe d'un tel niveau, tu t'avales la trompette.
Hein. Tu vas pas bien. Tu vas à Monaco, tu gagnes à Monaco. Après, tu perds Saint-Étienne. Mais tu reçois Rennes et tu bats Rennes. T'es censé aller mieux. Et entre-temps, tu te qualifies en battant le PSG au Parc, même s'il y avait 3 pénaltys. De là à dire que d'un coup, c'est le Guingamp catastrophique.
C'était une défaite sur les 6 derniers matchs, taux de compète confondu.
Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, quand tu arrives au Parc, tu oublies que c'est le PSG, tu essaies de jouer pour grappiller des points.
Un petit peu, ouais.
Mais là, j'ai rien vu. C'est-à-dire que même s'ils sont allés vite.
Mais comment tu l'expliques ça, toi, alors? Surtout quelques jours seulement après la fameuse élimination.
Ils ont encaissé très vite.
Face au PSG.
Déjà, le premier but, ils ont encaissé assez rapidement.
Ouais, mais tu l'as dit, Ludo, l'erreur, t'es défenseur. Dans une équipe qui va pas bien, t'es sur le côté, qu'est-ce que tu fais? On a vu des grands joueurs comme Van Dijk ou Ramos, des fois Casillas sur le côté, au lieu d'essayer de dribbler, il balance alors qu'ils sont dans les grands clubs. Là, il essaye, il fait l'erreur, alors qu'il a Cavani en plus à côté de lui, d'essayer de donner un bon... Envoie une touche, va te replacer, vous êtes pas bien, c'est encore un petit score.
Pendant le match, j'ai pas réussi à détecter si c'était... J'ai pas vu cette équipe tricher. Tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose où mentalement ils ont craqué.
Oui, mais quand tu fais rien,
ils ont complètement craqué à 3-4-0.
Quand tu proposes rien, Ludo, ouais, tu triches. Quand tu ne proposes pas, tu ne donnes pas d'envie, tu ne joues plus, tu triches. À ce compte-là, dis, laisse tomber cette équipe, elle aurait dû mettre une autre équipe et préparer le prochain match avec soi-disant les titulaires, parce que là ils sont un peu
perdus.
Pour
moi, c'est ça, ils ont limite abandonné. Hein. Moi, vous savez, j'ai jamais
ils ont rapidement abandonné.
Raté de but de en regardant un match. J'ai raté 6 buts. À chaque fois, j'allais à la cuisine, bim, j'entendais buts.
Tu sais que ça peut être Tarek, ça peut être un moins un point par rapport au Golavera. Ça peut leur coûter cher, hein, ce moins 9 là.
Oui, c'est sûr, bien sûr.
Parce que là, à la fin de la saison, il va coûter. Hein. Ça va coûter un point en moins.
Mais là, je me retrouve à parler de Guingamp, en fait. C'est ça qui m'étonne.
Alors que tu es supporter du PSG.
Du PSG, ouais, c'est ça. J'analyse Guingamp, c'est bizarre. Mmh.
Ah, tu t'inquiètes, mais, c'est normal.
Ouais, mais c'est triste pour le championnat, en fait. Je me disais que...
Tariq, il y a d'autres championnats. Il y a d'autres championnats où le premier met une rouste au dernier aussi. Ben, ça arrive.
Si tu le remarques bien,
je veux bien, on en revient. Il y a quelques jours, Guingamp, alors c'est d'autres circonstances, c'est une autre équipe, etc. Ils éliminent le PSG de la Coupe de la Ligue. Ça faisait une éternité que le PSG n'avait pas perdu. Bon, là, ils perdent 9-0. OK. C'est pas non plus toutes les semaines que, tu vois, le PSG gagne 9-0 en championnat non plus, tu vois. Moi, j'ai des souvenirs en Liga de victoire du Barça et du Real, du Barça surtout, ces dernières saisons, des 8, des 7-0 aussi, hein, les gars.
Ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça dans les deux championnats. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, il n'y a plus de gros scores comme ça.
Il n'y en a pas souvent en Liga non plus.
Alors, n'accablons pas les Guingampais ce soir. C'est certes une fessée, ils vont s'en souvenir pendant un moment, mais bon, peut-être que, comme tu dis, ça peut arriver. Tu peux passer
à côté. Si ça arrive dans 15 jours, 3 semaines, je te dirais, ouais, effectivement, faut peut-être flipper là.
Alors, dans la position où t'es, c'est compliqué d'expliquer ça par rapport à tes supporters et à l'environnement, de dire que ça peut arriver, parce que t'as pas le droit de lâcher mentalement, parce que ils ont abandonné, on peut le dire, au bout de trois.
Ça va pas aider au prochain match.
Ça peut arriver, ça arrive.
Mais ça va pas aider au prochain match.
Ah non, ça c'est sûr.
Parce que 9-0, quand tu rejoues le prochain match qui puise, je sais pas si c'est à domicile ou à l'extérieur, et que tu joues le maintien.
Je donne le calendrier également à venir. C'est déplacement à Nancy en Coupe de France, match contre Reims en championnat, match contre Monaco en Coupe de la Ligue, cette fois-ci demi-finale de Coupe de la Ligue, et match à Bordeaux. Voici les prochains matchs de Guingamp.
Ça peut avoir un effet
contraire.
Ça peut être un déclic pour eux dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir l'aspect psychologique où ça va te tomber dessus et tu vas le traîner pendant tout le reste de la saison, ou tu peux te dire bon, on s'est pris une branlée internationale, c'est honteux, et le prochain match, il faut absolument qu'on rebondisse.
Non, mais leur problème, c'était leur défense, et apparemment, après ce 9-0, qu'est-ce que ça va être alors? Ça sera beaucoup plus qu'un problème, parce que ça soit le gardien, que ça soit les défenseurs.
Après, on peut aussi se poser la question, on peut pousser un peu plus loin le raisonnement. Moi, quand je vois la composition de départ, je me pose aussi quelques questions. Nolan Roux, qui revenait tout doucement, qui avait claqué quelques semaines avant, qui avait été plutôt bon, pas aligné. Yenien Bakoto sur un côté. Alexandre Mendy, qui a pas beaucoup joué avec Bordeaux hors de forme, en pointe. Tu peux aussi te poser la question de la composition de l'équipe.
Tariq, merci d'avoir été avec nous et bravo pour ton analyse de l'avant-garde.
Je peux passer un petit message ?
Ouais, vas-y Tariq.
Je passe un message à Ali, je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais il devait venir me chercher pour aller au Parc des Princes. Ça fait un an, jour pour jour.
Mais il faut que tu laisses ton... Non, mais est-ce que tu as laissé ton numéro ?
Ah oui, mon numéro il est là, ça fait deux ans que vous l'avez.
Laisse-le au standard.
Même coup, ça fait deux ans que je l'attends.
Non, tu es un gros menteur. Laisse-le au standard, Tariq.
Donne-le à Max.
Ok, ça marche.
Promis ?
Ouais. Et tu rappelles dans un an et
Non. Si tu le laisses au standard, je t'envoie un SMS, comme ça tu me le rappelles.
T'auras des places pour Monaco, Tariq.
Parfait.
Salut Tariq, bonne soirée.
Guingamp.
Ciao Tariq, bonne soirée, bonne nuit. Ciao
Tariq.
Alors tourne du côté du stade Océane, au Havre où les Françaises jouent face aux Américaines, match amical à quelques mois de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France. Et les Françaises qui mènent, Anthony Reich et Laure Lepailleur. Il y a quoi, 3-1 là, c'est ça?
Oui, c'est même terminé depuis quelques instants, Nico. L'équipe de France qui s'impose donc ici au stade Océane, 3-1 pour cette rentrée 2019 face aux championnes du monde en titre. Des buts exclusivement parisiens ce soir. Doublé de Kadiatou Diagne à la 9e et à la 55e. Troisième but tricolore par Marie-Antoinette Katoto qui fêtait sa deuxième sélection à la 78e. Et petite ombre au tableau ce soir avec cette réduction de l'écart au score des Américaines dans le temps additionnel à la 91e minute par Mallory Pugh. Mais un bon bilan pour cette rentrée 2019 lors de l'équipe de France. Un match quand même très bien géré des joueuses de Corinne Diacre.
Bah pour un premier match en 2019, c'est sûr qu'il faut tirer des enseignements positifs de cette rencontre. J'ai trouvé que collectivement, il y avait du mieux du côté des Françaises. On a vu une équipe organisée qui travaillait très bien les unes par rapport aux autres. Maintenant, il y aura quand même encore quelque chose à gommer. Parfois, la perte de balle, dès la perte de balle, il peut y avoir quelques lacunes, notamment sur les côtés, parce qu'il y a beaucoup d'apports offensifs. Mais un enseignement positif, et c'est de bon augure pour la suite, et des beaux matchs amicaux encore à venir.
Et on se retrouve donc fin février pour le prochain match de l'équipe de France face à l'Allemagne.
Merci beaucoup Anthony et Laure, rentrez bien. Voilà, merci. Victoire donc des Françaises, 3-1, match amical de l'équipe de France.
On va en parler un petit peu. Là, on a une bonne équipe et je pense que Corinne Diacre, son passage en Ligue 2 va faire beaucoup de bien.
Elle a fait du bon taf, clairement. Ouais.
Elle a fait du bon taf et ça va servir énormément en équipe de France, en ayant une coach féminine.
Mais tu le vois en plus dans sa manière de manager, elle te le disait. La joueuse du PSG qui marque ce troisième but, qui était pas censé être dans les plans. Et puis finalement, elle a réussi, je pense, à la piquer.
Ouais.
Regarde le résultat.
Non. Dans quelques instants, on va revenir sur un autre carton de cette 21e journée de Ligue 1, Strasbourg, qui s'est imposé 5-1 à Monaco. On sera avec Yann Pécheral, qui assiste à la conf de presse de Thierry Loret et de Thierry Henry, avec un Thierry Henry très énervé, comme Ali Benarbia, mais pas comme Ludo Bragnac encore.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné toujours par deux, Ludo Bragnac et d'Ali Benarbia. On vous rappelle les résultats de la 21e journée de Ligue 1. On commence d'ailleurs par le match amical. Les Françaises qui viennent de battre les États-Unis 3-1. Match amical de foot féminin à 6 mois de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France. Victoire 3-1. Donc cet après-midi, le PSG a cartonné 9-0 face à Guingamp. Verratti est sorti blessé de ce match. Blessure sérieuse, a expliqué Thomas Tuchel à la fin du match. Toulouse s'est imposé 1-0 à Nîmes. Un partout entre Reims et Nice. Et victoire, grosse victoire aussi, de Strasbourg à Monaco. 5-1. Alors un match qui a été marqué par l'exclusion de Naldo, l'une des trois recrues titulaires d'ailleurs au coup d'envoi avec Fabregas et Balotouré du côté de Monaco. Je vous rappelle les buteurs, Ajorque le premier, Thomasson ensuite, Falcao qui permet à Monaco de revenir à 2-1, et puis Sissoko qui met un but absolument magnifique, Ajorque encore, et puis Fofana dans le temps additionnel, et au final ça fait 5-1 donc pour Strasbourg face à Monaco. Je t'ai senti vraiment inquiet Ali pendant ce match, et surtout à la fin d'ailleurs.
Non, ce qui se passe encore, le problème, c'est que tout est contre ce club et surtout et cette équipe depuis que Thierry Henry est arrivé là. C'est-à-dire que même si tu te dis ça va être encore galère, ça va être dur, espérons qu'on arrive ric-rac à faire un petit peu comme le GC Nice qui est à côté, gagner un petit 1-0 et on prend les 3 points plusieurs fois, tu commences avec ton pilier de la défense de recrue Naldo qui prend un carton rouge au bout de 5 minutes. Et Thierry Henry, depuis qu'il est là, même si son équipe joue pas très bien du tout, se cherche, que c'est une catastrophe, rajoute des catastrophes à chaque fois où un joueur se blesse et il sort, soit il rentre et il prend un carton rouge, et c'est tout le temps comme ça. Soit c'est le gardien qui fait défaut, et c'est tout le temps comme ça. Et là, encore plus, ça te permet, toi, de douter 10 fois plus alors que tu doutes, et face à toi, ben les joueurs, tu prends une équipe comme Strasbourg, qui en ce moment est en pleine réussite, elle... Mais ça fait encore plus tout le contraire. C'est-à-dire que tu prends 5-1. Donc là, si je suis à la place des Monégasques et à la place de Thierry Henry, c'est pas des questions que je me pose. C'est, je me dis, comment je vais pouvoir trouver des solutions si à chaque fois en plus que c'est très dur et que je pars avec un retard énorme, ça se rajoute à chaque match et à chaque minute du match. Donc je vois aucune solution. C'est
je vous rappelle le classement quand même, hein, parce qu'avec ce résultat, Strasbourg monte à la 5e place. Alors en attendant que d'autres jouent, hein, bien entendu, ils ont un point d'avance sur Montpellier, mais ils ont 2 matchs en plus par rapport à Montpellier. En revanche, pour Monaco, Monaco il reste avant-dernier. Ils ont 1 point d'avance sur Guingamp. Ils ont 2 points de retard sur Dijon. Oui, mais Dijon a 2 matchs en moins aussi. Hein. Donc c'est vraiment, ça commence à devenir vraiment inquiétant. Et du coup, Monaco, ils ont 3 points de retard sur Amiens, qui est 17e par exemple.
Et au-delà de tout ça, c'est-à-dire que tu me parles de Naldo. Naldo, il a été plutôt encourageant sur les dernières prestations qu'il a fournies. Mais le gros problème de cette équipe, depuis un moment, c'est sa défense centrale. Glick, Jemerson, c'est catastrophique.
Tu fais jouer qui, Ludovic?
Je sais pas, même
mais ah bah voilà.
Je m'en fous, tu mets.
Il a fait jouer Badiachile.
Je m'en fous, bah tu les mets. Mais c'est plus possible.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a plus personne.
Attends, ils ont pris un but, les deux, Thomasson qui fait ma taille, hein, 1m70.
Non, et d'où il a mis la tête.
Qui vient couper de la tête entre les deux.
Non, mais à l'entrée de la surface.
À l'entrée de la surface.
Il la met pas dans la petite.
Ah mais s'il te plaît, c'est pas possible. Ils se sont fait jongler.
Donc on enlève. T'enlèves les deux de l'axe, la défense centrale, ça va pas. Ok. Gardien comme doublure. Tu as joué un gardien Subasic qui a 34 ans. Ta doublure, elle a 36 ans, Ludovic. Benaglio. Et après, ce sont des jeunes gardiens. Comment tu veux que les deux jeunes gardiens qui sont derrière, en ayant 34,5 et 36 ans, ils peuvent se dire, je vais pouvoir, moi, bosser en état de... Ben, les mecs, ils bossent même pas, les deux gardiens.
Enfin, là t'as plus d'état d'âme. Là, t'as plus d'état d'âme à avoir. Hein,
mais c'est pour ça. Donc, gardien, ça va pas. Défense centrale, ça va pas. Je suis désolé parce que dans n'importe quelle équipe, défense centrale va pas. Gardien qui ne rassure personne. Tu peux avoir une super équipe, tu n'y arrives pas. Mais là, on a vu Fabregas Fabregas est avec Glick et Badiachile.
Bah d'ailleurs, il a un but sur le but de...
Non, mais je parle de celui-là. Ouais. Dans la surface, il met du temps pour dégager. Il vient le contrer. T'as Glick et Badiachile. On dirait que c'est même pas défenseur parce que ils étaient déjà devant Fabregas. Je sais pas pour aller où. Et après, ça a fait but, encore une fois.
Tiens, on va accueillir les gars, Cédric, qui est supporter de l'AS Monaco et qui nous a appelé au 32-16. Salut Cédric.
Bonjour messieurs, bonsoir.
Bonsoir Cédric.
Bon Cédric.
Moi je m'inquiète, pas encore, mais moi ce qui m'inquiète...
Tu devrais,
ce qui m'inquiète...
C'est plus de l'inquiétude en fait, c'est surtout ça.
Ouais, non, puis ce qui m'inquiète réellement, alors, j'adore Thierry Henry, mais est-ce que c'est le coach expérimenté?
Non.
Il n'est pas expérimenté.
Ben non.
Il ne faut pas lui en vouloir, mais moi j'ai deux faits de jeu. C'est contre Nice, on est à 11 contre 10. Il reste 10 minutes et on joue encore avec 5 défenseurs. Là, contre Strasbourg, on prend un carton rouge au bout de 8 minutes, la défense centrale. Je pense que n'importe quel entraîneur expérimenté sort un attaquant, et souvent, d'ailleurs, au bout de si peu de temps, ils font la tronche, et met un défenseur, là même pas. Donc, ça, ça m'inquiète déjà. Je pense peut-être qu'il aurait pu réagir par rapport à ça.
Cédric, juste, je te coupe deux secondes, juste priorité au direct. Hein. Reste avec nous, Cédric. Ouais. On va accueillir Lamine Koné, voilà, joueur de Strasbourg qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Lamine.
Salut.
Merci d'être avec nous, Lamine. Bravo pour cette victoire. 5-1 à Monaco. Alors, tu l'entendais certainement, on était avec Cédric, supporter de Monaco, en direct avec nous. Ils sont déçus, ils sont dépités, les supporters de Monaco. Avant de parler de la prestation de Strasbourg, est-ce que tu as été étonné, toi, par ce résultat, par ce match à Monaco? Tu t'attendais peut-être à autre chose ou pas?
Bah, honnêtement, je m'attendais à autre chose. J'ai été étonné du résultat parce que il était déjà à domicile et je pensais qu'il allait se révolter puisque c'est quand même, Monaco, c'est un grand club. Hein. C'est un grand club qui joue les deux premières places. Et les voir comme ça, franchement, c'est choquant. Et bon, nous, on savait qu'ils n'étaient pas forcément très bien à domicile. Ils n'ont pas gagné encore un match. Et nous, on voulait jouer nos cartes et on l'a bien fait.
Alors, vous avez joué vos cartes et vous êtes pas mal. Alors, il y a pas mal de matchs en retard, certes. Mais ce soir, Strasbourg est cinquième, Lamine. Est-ce que, alors, question que tout le monde va vous poser, qu'on va vous poser tout le temps d'ici la fin de la saison, si ça continue. Est-ce qu'à Strasbourg, on se met à rêver d'Europe, Lamine?
Honnêtement, honnêtement, peut-être dans un coin de la tête de tous les joueurs, peut-être oui, on y rêve, on y croit, mais bon, pour l'instant, nous, l'objectif premier, c'est avant tout, vous le savez très bien, c'est le maintien. Et je pense que là, pour l'instant, on n'en est pas loin. Après, on a deux, trois objectifs avec
Tu nous fais une guirou, Lamine, là, arrête.
Groupe bien, vous avez dit les choses, tout ça, quoi, c'est ça?
Non, mais Lamine, je dis ce que je pense.
T'as raison sur une chose, Lamine, vous venez de loin, Strasbourg. Et déjà, le maintien confirmé après une saison, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'il a pu se passer en si peu de temps pour que votre jeu soit plus fluide et que vous soyez aussi sûr à l'extérieur dans votre...
Notamment face aux grosses équipes.
Non, mais même dans le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant, c'était soit le contrôle, il partait à 3 mètres, soit le joueur, il était en retard, soit la passe était derrière au moment de l'avant-dernière ou la dernière passe.
Bah honnêtement, c'est peut-être le déclic du dernier match avant la trêve contre Nice où on a vu que je pense que c'est un des meilleurs matchs de la saison qu'on ait fait et on a vu que bah ce match-là tout le monde était concerné, on était tous unis et voilà après on c'est vrai que l'entraîneur nous parle beaucoup, entre nous on se parle beaucoup et on s'est dit qu'on va pas revivre la même année que l'année dernière même si j'étais pas là mais je sais que ça a été très difficile pour eux. Et nous, voilà, on voulait vivre une deuxième partie de saison pas compliquée comme l'année dernière. Donc voilà, je pense que tout le monde met un peu de son grain de sel sur le terrain et on voit que bah, la mayonnaise, elle prend. On se parle bien, on est unis, on voit que tout le monde est concerné. Donc c'est pour ça que voilà, vous voyez un autre Strasbourg en ce moment.
Lamine Koné, défenseur du Racing Club de Strasbourg, est en direct avec nous dans l'after. Lamine, Ludo Bragnac a une question pour toi.
Bon, Lamine, je tenais déjà à te féliciter parce qu'on s'était croisé il y a quelques temps. C'était une situation dans laquelle tu cherchais un point de chute. Je exact. Trouve que tu as trouvé parfaitement chaussure à ton pied. Je sais aussi que malgré ta stature colossale, tu es un garçon sensible. Et justement, est-ce que finalement, dans cette équipe de Strasbourg, ce qui fait votre force, c'est pas ce qui s'y passe, l'humain et l'atmosphère qui y règne?
Je pense que oui, honnêtement, c'est bon. On a beaucoup de joueurs qui sont dans cet état d'esprit, et je pense que voilà, je suis venu dans un club un peu comme j'avais précédemment, à Lorient, un club familial. Et voilà, les gens ici sont humains. On a un bon président, on a un bon entraîneur qui veut jouer au ballon. On a beaucoup de bons joueurs ici qui sont concernés. Et voilà, moi, je me suis bien adapté ici, ils m'ont bien accueilli, et je me sens bien dans cette équipe. Donc franchement, j'espère que ça va continuer.
Lamine, le prochain match de Strasbourg, c'est le 16e de finale de Coupe de France au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Le PSG vient d'en claquer 9 à Guingamp. Est-ce que ça vous fait flipper, les Strasbourgeois?
Non, bah, on sait que Paris, à domicile, c'est très très fort. Mais nous, on va jouer nos cartes. Hein. C'est un match de Coupe, avant tout. On sait que les matchs de championnat et les matchs de Coupe ne sont pas pareils. Donc, on a bien vu que Guingamp a réussi à gagner à Paris. Donc, nous, on va jouer nos cartes. Après, c'est sûr qu'on va tout faire pour ne pas en prendre 9.
Il faudra prendre le même arbitre.
En
coupe.
Comment ?
En Coupe, tu prendras le même arbitre qui file 3 pénaltys. ça aide des fois.
Ouais.
Et juste Lamine, parce que avant de rejoindre Strasbourg, tu étais du côté de Sunderland. Je suppose que tu l'as vu, mais est-ce que tu as vu la merveilleuse série sur Netflix Sunderland Until I Died?
Non, on m'en a parlé, je n'avais pas encore regardé, mais on m'en a parlé, mais bon, je
la regarde
connais,
pas, Lamine, la regarde pas. Ah, non, ça va te replonger dans des souvenirs.
Vous explique ça, Lamine. Je la connais par cœur.
Ah, bah toi, tu l'as vécu de l'intérieur, ouais.
Non, et puis la regarder pour replonger encore dans.
Non, et puis il enchaîne les victoires à Strasbourg. Regarde la série de Strasbourg.
En fait, c'est un inside pendant toute la saison. Voilà, il y a une équipe de tournage qui a suivi Sunderland pendant la saison de la descente de la D2 vers la D3, du Championship vers la Ligue 1. Et vraiment, c'est super bien foutu en tout cas. Voilà, ne regarde pas Lamine, mais regardez les autres si vous voulez.
Pour l'instant, je regarde Strasbourg. J'ai pas envie de regarder.
Très bien.
D'ailleurs, Gilbert Bribois veut produire un truc. Sache-le. Voilà. Gilbert, tu le sais, supporter numéro 1 du Racing, bien sûr.
Ouais.
Voilà. Merci beaucoup, Lamine, d'avoir été avec nous.
Il n'y a pas de souci.
Bonne soirée encore, bravo.
Bonne chance, Lamine.
Merci, bonne soirée, Lamine. Voilà. Lamine Koné qui était en direct avec nous dans l'after. Victoire 5-1 de Strasbourg face à Monaco. Cédric est toujours avec nous, supporter de Monaco. On l'accueille dans un instant. Sofiane le rejoindra. On sera avec Yann Pécheral aussi, qui a suivi les confs de presse avec un Titi Henry. Bah, forcément, en colère ce soir après cette défaite 5-1 à domicile face à Monaco. À tout de suite avec Ludo Bragnac et Ali Bena.
RMC Football Show. L'after foot.